Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, bienvenue dans notre bulle d'optimisme. Pendant une heure, nous allons découvrir des femmes et des hommes qui osent et qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est ici pour découvrir les talents de notre économie. Alors au sommaire de votre émission, la saison des festivals est ouverte. Annulée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie, les festivals de musique font leur retour cet été. Alors comment s'organisent les festivals? Les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 juin prochain, Solidays fait son retour à l'Hippodrome de Longchamp pour sa 24e édition et Luc Barruet, le fondateur de Solidarité Sida et de Solidays, est l'invité de La France Bouge. À la une en effet les festivals et le gaspillage alimentaire, ils sont tous mobilisés et on a trouvé une solution, c'est l'INKI. Cette association récupère les légumes, les plats préparés et même les pâtisseries laissées dans les festivals pour les redistribuer notamment aux étudiants ou ceux qui en ont besoin. On les découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, retour sur les tout débuts des festivals sur Europe 1. Mais oui, à partir des années 60, durant plus de 30 ans, les podiums Europe 1 étaient les tournées dans les villes de province, dans les stations balnéaires ou pendant les étapes du Tour de France. Ce sera la saga du jour avec des petites pépites d'archives. Restez avec nous, ce sera vers 13h30. Le pitch des trophées Europe 1 d'avenir avec notre partenaire la CCI. Et Nathalie Carré, bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on reçoit Safer, c'est un dispositif pour aider les personnes qui vivent des moments d'insécurité en milieu festif.
Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir et puis en fin d'émission, demain je change de vie. Cyril, il était dentiste, aujourd'hui il est producteur. Eh bien oui, c'est ça, la France bouge, on ose, on avance et vous êtes là pour les découvrir avec nous. Bienvenue, vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, ces associations, c'est ici où nous les mettons en avant chaque jour à La France bouge, la bulle des optimistes. Et aujourd'hui, on va parler de l'économie de nos festivals. Eh bien oui, parce que les festivals repartent et ça, ça nous fait du bien. On en parle avec nos startups. Et notre témoin du jour jusqu'à 14h. Bonjour Luc Barruet.
Bonjour.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes le fondateur de Solidarité Sida et vous produisez le festival Solidays. Solidays, c'est un festival de musique qui est donc organisé par l'association Solidarité Sida. Il existe depuis 1991 et là, ça repart.
99, pardon.
C'est reparti, ça démarre vendredi prochain à l'Hippodrome de Longchamp. Un redémarrage bien particulier après deux éditions annulées. En 2021, Solidays avait seulement ouvert ses portes une journée pour les soignants. Luc Barruet, vous êtes heureux ?
Je suis enthousiaste et fatigué.
Bon, c'est une bonne nouvelle.
Non, mais si vous êtes fatigué, c'est que vous avez fait plein de trucs.
Oui, c'est assez. Franchement, cette reprise est assez intense. Maintenant, je suis heureux de retrouver cette dynamique humaine d'abord, de retrouver cette générosité palpable au quotidien, parce que je pense que vous avez parlé d'un festival de musique, mais surtout c'est un festival de bonne volonté et d'envie. Hein. Il y a tellement de gens qui contribuent de près ou de loin à la réussite de ce festival. Et je pense que ce festival est d'abord une centrifugeuse affective. Voilà,
les gens dedans, il y a le mot solidarité.
C'est ça,
donc
c'est ça.
Il se passe plein de choses au niveau humain. Il paraît, on va revenir sur cet aspect humain qui est essentiel, hein, parce que c'est ce qui vous différencie véritablement, vous, Solidays, par rapport à d'autres festivals. On me chuchote que les réservations, Luc Barruet, sont historiques.
Ah, on va battre leur corps cette année de 2019, ça c'est sûr, effectivement. Samedi est complet depuis 2 mois et demi, vendredi depuis 1 mois et demi et dimanche depuis 3 semaines. Donc il reste quelques billets la nuit qui donnent accès au site à partir de 23h. Mais c'est tout, on va battre le record cette année encore.
Mais comment vous l'expliquez? Vous avez tout vendu?
Ah oui, à moins qu'on m'ait caché des choses.
Ah mais non, sinon, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a cette envie d'aller faire la fête, cette envie d'aller au festival. Comment vous expliquez ce succès, Luc Barruet, de Solidays?
Je pense que d'abord, on va se le dire, je pense que beaucoup de gens qui sont déjà venus à Solidays ont envie d'y revenir. C'est un vrai pèlerinage de revenir à Longchamp tous les ans pour revivre un certain nombre de choses ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Solidays, c'est carrément le bon plan quand même, parce que ramener au prix et à l'offre, le rapport qualité-prix...
Alors, c'est quoi ce bon plan? Pourquoi?
C'est-à-dire que Solidays, les tarifs, les 3 jours commencent à 39€ jusqu'à 109€, et 109€ les 3 jours par rapport à ce qu'on propose, c'est carrément avantageux. Donc ça, c'est on défend une accessibilité, notamment sur les tarifs, qui fait que globalement, les gens ont envie d'y aller. La troisième chose, c'est que j'ai le sentiment que aujourd'hui, on est nombreux quand même à chercher du sens collectif et du lien social, et que des rendez-vous, des moments de partage, il n'y en a pas tant que ça.
Vous avez même, pardon, je vous coupe, mais vous êtes même allé jusqu'à un espace pour les enfants. Enfin, c'est vraiment une fête de famille, en fait.
Alors, c'est une fête de famille, bien évidemment. On peut déposer ses enfants, il faut s'inscrire. Ah oui, on les prend en charge. Croyez-moi, il y a des enfants qui viennent juste pour aller à l'espace Kids, pas pour passer de temps avec leurs
parents. Pour aller écouter les Black Eyed Peas.
Oui, ah non, ça c'est sûr, ils s'en foutent d'ailleurs. Et je peux même vous dire qu'il y a des parents qui reviennent le lendemain parce que leurs enfants leur ont mis la misère pour revenir à l'espace
mais
enfant.
Mais il se passe quoi, mais c'est l'espace enfant, oui, c'est de solidarité.
Ils ont plein d'animations, ils ont l'impression de vivre un truc de grand alors qu'ils sont entre eux. Voilà, je pense que c'est aussi un vrai moment de partage à l'espace enfant. Donc voilà, mais en tout cas moi j'imagine que si j'avais eu 6 ans et que j'avais été à l'espace enfant, j'aurais fait la même chose pour revenir dès le lendemain. C'est impressionnant de vivre un truc de grand, un truc qui a du sens, parce que même à 6 ans, on commence à percevoir le fait qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, on pose des questions. Donc, je pense que ça fait partie d'une approche éducative. Et quand on peut s'amuser en apprenant des choses, parce que même dans l'espace enfant, on apprend des choses, hein, on ne fait pas que jouer. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance qui accompagnent ces enfants, et donc on n'est pas juste en train de leur faire une garderie toute l'après-midi. Voilà. On essaye de les éduquer en parallèle.
Luc Berruet, vous nous dites que les raisons de ce succès, c'est le prix, ok, c'est parce que c'est une fête de famille, d'accord, mais vous ne nous parlez pas de musique. Il y a quand même une programmation exceptionnelle.
Oui, il y a une programmation exceptionnelle, et elle est surtout riche, parce que Solidaise est certainement le festival en France qui propose la programmation la plus dense. On ne peut pas voir tous les concerts à Solidaise. Il y a 7 scènes qui tournent ensemble. Donc chaque heure, il y a 2 ou 3 concerts en même temps. Donc on est obligé de faire des choix.
Donc il y a plusieurs scènes.
Donc Solidaise, ça joue sur la frustration. Mmh. Voilà. Donc à un moment,
c'est la clé.
Les gens passent de l'un à l'autre, ils passent leur temps à se dire « Bon, on se retrouve dans 2 heures ici, tac, tac, tac. » Et ils ne se retrouvent pas, ils se recherchent. Donc concrètement, la densité de la programmation est assez exceptionnelle. Et je le redis, la richesse d'un festival, ce n'est pas ses têtes d'affiche. Voilà. C'est tout ce qu'on va chiner sous des plus petits chapiteaux qu'on ne connaît pas.
Et qu'on du succès aussi.
Qu'on des succès, mais qu'on ne connaît pas. Mais qu'on ne connaît pas. Mais qu'on va écouter pendant des semaines, pendant l'été. Voilà, c'est ça la richesse d'un festival. C'est aller chiner, aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui vont découvrir Orelsan à Solidaise. D'accord, mais la plupart des gens connaissent déjà Orelsan.
Oui, il y a Orelsan, Justice, Eddie voilà. Depreto, Damso, Black Eyed Peas. Et il y en a d'autres qu'on connaît moins.
Ah bah, il y a près de 80 concerts, donc moi je sais que par exemple, si j'étais festivalier aujourd'hui, Solidaise l'était la semaine prochaine, j'irais chercher Pongo, qui est une artiste angolaise dingue, j'irais chercher Ayrton Jones, qui est Lenny Kravitz.
Vous avez des producteurs comme ça qui viennent chez vous pour aller chercher des pépites ou...
Oui, il y en a quelques-uns, mais voilà, c'est un travail de détection, il y a à peu près une quarantaine de bénévoles qui travaillent à l'année. Sur l'artistique,
pour
aller chiner
l'artiste.
Des concerts à Paris, pour aller dans toutes les petites salles à Paris, dans les plus grandes, pour aller détecter des talents.
Et attendez, vous avez dit que ce sont des bénévoles ?
Ah oui, on a des bénévoles. Il y a un comité artistique à Solidarité Sida qui se réunit une fois par mois et avec des vraies missions. Ils vont voir des concerts, ils font des comptes rendus très détaillés et sincèrement assez professionnels. Et sur cette base-là, on travaille. C'est une mission participative.
Après 2 années, là, vous allez renouer avec le public. C'est quoi ? Vous avez mis 1 an pour préparer ce retour en force. C'est quoi ? C'est quoi l'organisation qu'il y a derrière ?
En général, un festival comme Solidaise, d'abord, on commence par la programmation. C'est le dossier qui commence le plus tôt.
Mmh. Derrière, il a commencé quand ?
Il a commencé en juillet de l'année dernière. Mmh. Derrière, c'est les finances. Voilà, parce que quand même, au bout d'un moment, il faut quand même avoir l'argent pour le faire. Et très vite après, on rentre dans la partie organisation, production, qui est très très lourde, puisqu'il n'y a personne à Solidarité Sida, dans les salariés et les permanents de Solidarité Sida, qui travaillent à l'année juste sur Solidaise.
Ils ont un autre métier à côté.
Ils ont d'autres activités, d'autres chantiers à l'année. Et donc, à un moment, il faut que toutes ces bonnes énergies s'agrègent. Et très sincèrement, cette année, elles se sont agrégées un peu tard.
Vous restez avec nous, Luc Berruet. Vous êtes le directeur fondateur de Solidarité Sida. Vous produisez Solidays. Il est 13h12 sur Europe 1 et on va continuer à parler de cette économie des festivals.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission sur Europe 1 qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises, nos associations, nos initiatives. Et il y en a beaucoup, on le découvre chaque jour, hein, Nathalie Carré. Hein. Il y a des petites pépites en France et aujourd'hui on parle des festivals. Et oui, c'est le retour des festivals. Un record historique, c'est ce que vous nous avez annoncé, Luc Berruet. Vous êtes le fondateur de Solidarité Sida et vous produisez le festival Solidays, hein, qui commence donc vendredi prochain, vendredi, samedi et dimanche prochain. Vous reprenez après 2 années de crise sanitaire où ça n'avait pas été possible de renouer avec les festivals. Et dans les festivals, il y a un enjeu qui est assez majeur, c'est celui du gaspillage alimentaire. On retrouve parfois des corbeilles de pain par milliers. Alors nous, on a trouvé à la France Bouge une start-up qui a peut-être la solution. Bonjour Julien Maimon.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Linky, ça s'écrit L-I-N-K-E-E. C'est une association d'aide alimentaire durable et vous existez depuis 6 ans.
Absolument. Et nous, notre travail, c'est de récupérer toute la nourriture en bon état, produite par les professionnels, donc dans les festivals, mais également dans l'événementiel en général, chez les traiteurs, les restaurateurs, dans les cantines scolaires, la restauration collective.
Tout ce qui reste et qu'on n'a pas utilisé.
Tout ce qui
vous
est encore
allez,
bon à
et qui est encore bon, évidemment, à manger.
Absolument, qui n'est pas périmé, qui n'a pas connu une rupture de la chaîne du froid. Et nous, on va le récupérer, mettre en place des moyens logistiques pour le récupérer, le conditionner, le transporter et ensuite le distribuer à des gens qui ont faim. Ce qui fait qu'on ne fait que de l'aide alimentaire, mais que notre moyen d'action, c'est l'anti-gaspillage.
Donc les festivals, eux, se sont donc organisés par des associations. Vous travaillez avec eux ? Vous travaillez avec quel type de festival, par exemple ?
On travaille avec plein de festivals. On a lancé les festivités, en quelque sorte, avec Solidays il y a quelques années. On travaille avec Wheel of Green, qui est un festival qui s'est tenu il y a une semaine.
À chaque fois, ce sont des festivals de musique.
Oui, des festivals général. De musique, mais on travaille sur d'autres événements. Il y a des grands événements, par exemple des défilés
des salons,
de mode.
Des salons, oui, voilà,
oui,
c'est ça.
Quand il y a la Fashion Week, là, en ce moment...
Là aussi, vous récupérez.
Là, on récupère aussi. Les petits fours, oui, mais pourquoi ne pas récupérer
mais
les petits fours?
Mais bien sûr, mais c'est pas du tout ironique.
Tant qu'ils ne sont pas sortis du frigo, en fait.
Exactement.
C'est ça.
Et on n'est pas obligé de se nourrir que dans ce qui est produit par les supermarchés. Alors, on récupère aussi des supermarchés, mais c'est bien d'aller récupérer dans l'événementiel, parce que c'est souvent de la nourriture de haute qualité, souvent des petits fours, comme vous dites. Et il y a plein de gens qui sont en grande précarité, qui ne se nourrissent évidemment pas assez, qui se nourrissent mal, et qui sont contents, peut-être pas de se nourrir de petits fours, mais en tout cas d'avoir dans leur colis alimentaire un
des
colis
petites choses un peu
rempli,
qui changent de l'ordinaire et qui leur font, ça leur fait plaisir.
Exactement.
Par exemple, pour Wheel of Green, le dernier festival dont vous parliez, vous avez récupéré combien de nourriture ?
Il me semble qu'on a récupéré un peu plus de 2,5 tonnes, peut-être 3 tonnes de nourriture.
Incroyable. Alors, et là, donc là, on vous appelle, comment ça se passe ? On vous appelle ou vous êtes déjà sur place et à l'issue du festival ou au fur et à mesure que le festival a lieu, vous prenez, vous ramassez, ça se passe comment la logistique ?
Toute la logistique, tout l'enjeu logistique, c'est de l'anticipation, c'est de la programmation, c'est de la préparation. Donc nous, on travaille en amont avec les équipes du festival de façon à pouvoir organiser toute la logistique de récupération et on le fait au fur et à mesure avec tous les restaurateurs qui sont présents. Ce qui fait que le soir où il y a besoin qu'on intervienne, tout a été déjà préorganisé et on intervient avec nos bénévoles.
Mais c'est ça, en fait, votre clé, c'est vraiment la logistique, finalement. Est-ce que vous êtes devenu un vrai logisticien avec un savoir-faire spécifique, parce qu'il faut aller à plein d'endroits différents. Est-ce qu'en fait, vous n'avez pas intérêt maintenant d'abandonner la distribution et de vraiment de vous concentrer sur ce métier-là pour démultiplier en fait votre action ? Parce que des organisations qui distribuent, il y en a déjà beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup, mais par exemple, nous, quand on a lancé les distributions aux étudiants à la rentrée 2020, il n'y avait pas de dispositif existant. On a été pris d'assaut sur le site qu'on a ouvert. On pensait ouvrir un site dans l'année, on en a ouvert 20. Ça a fait la une de l'actualité assez longtemps. Donc on a aussi contribué à un plaidoyer pour faire comprendre que les étudiants et la jeunesse en général en France sont précaires et doivent faire l'objet d'une attention redoublée des pouvoirs publics, ce qui n'est toujours pas le cas, puisque aujourd'hui, nous, on connaît la situation, on fait des distributions tous les jours dans plusieurs lieux en France, et on voit que la situation n'a absolument pas changé, même si les images des files d'attente de distribution alimentaire, qui étaient souvent nos distributions, qui ont été filmées par beaucoup de médias qui sont venus, ont disparu des écrans. Aujourd'hui, nous, la réalité, c'est que tous les jours, il y a encore autant de monde. Donc, le travail qu'on fait sur le terrain avec nos bénévoles, il est extrêmement important en matière de distribution. Et ça ne nous empêche pas de faire un travail de logistique de récupération, qui est un travail très important, puisque c'est ce qui nous permet de nourrir, en quelque sorte, entre guillemets, nos distributions.
Luc Barrué, vous êtes notre grand témoin du jour, directeur et fondateur de Solidarité Sida, et vous produisez évidemment Solidays. Quel regard portez-vous sur Linky, puisque vous travaillez ensemble déjà depuis quelques années ?
Bah d'abord, c'est une formidable initiative, parce que moi, j'ai connu Julien quand il portait ce projet et qu'il n'existait pas encore. Et croyez-moi, avant que ça marche, ce genre d'initiative, il faut passer beaucoup de temps à se battre et à convaincre. Maintenant, je trouve formidable sur le principe qu'on puisse travailler sur des cycles courts, deux, de la récupération, parce qu'il y a quand même beaucoup de gaspillage. Et dans une période où il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés à avoir accès à l'alimentaire, à des produits de première nécessité au quotidien, c'est encore plus important que des gens comme Julien et ses équipes voilà, s'accrochent. Et ils ont fait un formidable boulot pendant la période de confinement, et notamment vis-à-vis des étudiants, puisque c'est un public qui a été très, très fragilisé. Et donc,
mais du coup, puisqu'il y a systématiquement des gaspillages, on ne peut pas juste produire moins ?
ou commandez moins, vous voulez dire
ça, oui.
Moi, je veux bien vous dire un mot là-dessus, parce que c'est important. Le problème, c'est pas qu'on produise trop. Dans plein d'événements, vous avez 300 personnes qui viennent, alors quand vous avez 300 000, c'est évidemment encore plus important.
Il y en a combien chez Solidays, pardon?
Cette année, on va être près de 240 000.
240 000.
240 000 personnes qui viennent. Vous devez prévoir à manger pour 240 000
on
personnes. Et puis, il y a des aléas. Il se met à pleuvoir, il y a ceci, il y a cela. Et donc, finalement, vous donnez moins, vous vendez moins que ce qui était prévu. La question, ce n'est pas d'avoir prévu 240 000, c'est ce qu'on fait de ce qui reste. Si ce qu'on fait de ce qui reste, c'est le mettre dans les poubelles,
oui, on est d'accord,
ou le transformer en compost, alors là, c'est absurde. Et c'est même problématique dans la société dans laquelle on vit quand on sait le taux de précarité de la population en général et des jeunes en particulier.
Et c'est encore plus important pour vous, j'imagine, Luc Barrieux, parce que vous le disiez tout à l'heure, Solidays, oui, ce sont des concerts de musique, mais il y a aussi tout un état d'esprit. Donc ça va dans votre philosophie aussi à vous d'accompagner ces jeunes, d'accompagner ces étudiants qui peut-être ont économisé pendant 2 mois pour venir à Solidays.
Mais je pense que depuis la première édition de Solidays, bien évidemment, ça a été une initiative portée par Solidarité SIDA avec des enjeux SIDA, mais ça a été, dès la première édition, une approche solidarité dans son acceptation générale. C'est-à-dire que moi, je défends l'empathie et la bienveillance. C'est ça le moteur. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on lutte sur le terrain de la santé, publique si jamais on ne se sent pas conscient d'un certain nombre de réalités en termes de développement durable ou des réalités de précarité ou sociale. Donc, à Solidays, on parle de droits humains, on parle d'environnement, on parle de gaspillage, on parle de sexualité, on parle d'engagement des jeunes. Et donc, moi, je suis fier que ce festival, par exemple, il serve à ce que des petites associations qui accompagnent des personnes âgées isolées à domicile recrutent des bénévoles pour 2 ans d'activité. Ce festival, voilà, on travaille à 360 sur ces aspects-là. C'est un socle de base. Et autour, on essaie d'être intelligent dans notre approche de l'événement.
Donc, évidemment, en étant intelligent dans cette approche de l'événement, il y a aussi cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a aussi des ateliers que vous organisez, des conférences qui sont organisées au sein de Solidays.
C'est un événement éducatif, Solidays, dans le sens où...
Un événement éducatif, on est loin de l'image du festival.
Mais ça, c'est... Bon, alors, attends, c'est parce que souvent, quand je vais faire des médias...
Non, mais avec le plaisir.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Et là, on a une tribune aujourd'hui, donc je vais essayer de m'en saisir. Mais souvent, on me demande c'est quoi les nouveautés de l'année à Solidays. On ne me dit pas concrètement c'est quoi le revers du backstage, comment ça marche, c'est quoi les mécaniques et en quoi c'est vertueux. Donc, en tout cas, pour le dire par rapport à vous, c'est un événement éducatif. Nous sommes là pour transformer des multitudes de solitudes en communautés solidaires. Voilà. Et donc, on apporte... Alors d'abord, on peut venir à Solidays même si on ne met pas de capote systématiquement, voilà, et on a le droit d'être un con et de venir à Solidays quand même.
En fait, c'est ouvert à tous.
Voilà, c'est ouvert à tous. Par contre, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on est un peu moins con, voire on se dit, tiens, une capote, pourquoi pas, voire même on se dit, tiens, les personnes âgées et les domiciles, j'y avais pas pensé, mais peut-être que 2 fois par semaine, je vais aller faire une permanence parce que amener un filet de course ou aller faire de la lecture.
Parce que ça, vous sensibilisez les jeunes sur place à Solidays pour ce genre de...
Le village Solidarité de Solidays, qui comprend 100 associations, il y en a à peu près une vingtaine qui parlent de santé au sens sida du terme, mais les 80 autres, on parle d'autre chose. Ça, c'est une première chose.
Donc de l'aide aux personnes âgées, le gaspillage alimentaire,
tout. D'accompagner des personnes frappées de handicap en colonie de vacances, on parle de tout ça. Il y a des prises de parole aussi avant les concerts sur scène. Donc, il peut y avoir des jeunes migrants isolés qui prennent la parole, comme il peut y avoir des femmes battues, comme il peut y avoir des gens qui travaillent et qui font des permanences dans des laveries solidaires pour SDF.
Il faudra trouver un autre mot que ce festival, en fait, parce que c'est autre chose.
Solidays, ça dit les jours de la solidarité.
Des jours de la solidarité. Vous restez avec nous, Luc Barrieux, Julien Mimon, merci d'être venu aujourd'hui dans la France Bouge. Vous êtes le fondateur de Linky, cette aide alimentaire durable. Vous récupérez tout ce qui reste dans les festivals, enfin les restes qui n'ont pas été cassés par la chaîne alimentaire, et vous les redistribuez à ceux qui ont faim. Merci pour votre initiative.
Merci beaucoup à vous.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge, cette France, et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, nous parlons des festivals, et oui, les festivals, la saison est repartie, et nous sommes ravis d'en parler avec vous, Luc Barrieux. Vous êtes le fondateur de Solidays. Solidays, ça démarre vendredi prochain. Ça aura lieu vendredi, samedi et dimanche à l'Hippodrome de Longchamp après 2 années blanches.
Et c'est complet.
Et c'est complet, Nathalie Carré, vous avez raison. Après, c'est une année historique, c'est ce que vous nous avez dit, Luc Barrieux. Tout s'est vendu en à peine quelques jours avec une programmation exceptionnelle. Black Eyed Peas, Eddie De Preto, Damso et plein d'autres comme Pongo ou Elton John, vous avez dit ?
Elton Jones.
Ça, c'est pour la programmation musicale, mais on le découvre grâce à vous, Luc Barrieux, depuis le début de l'émission. C'est pas qu'un festival de musique, pas du tout. Il y a un endroit dédié aux enfants où les enfants passent des journées extraordinaires. Il y a aussi plus d'une centaine d'associations présentes, pas pour parler, on y parle maladie, on y parle sida, mais on y parle aussi lien social, accompagnement des personnes âgées. Hein, c'est aussi pour sensibiliser tous les jeunes qui sont là, qui sont présents. C'est quoi la moyenne d'âge qui vient chez vous ?
La moyenne d'âge de Festivalier Solidaires doit être de 25 ans. Maintenant, il y a tellement de jeunes qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des moins jeunes et ils sont les bienvenus.
Ils sont les bienvenus. Oui, votre public, c'est les jeunes. Et au-delà d'être un militant qui lutte contre le sida, vous, Luc Barruet, vous accompagnez cette jeunesse depuis plus de 24 ans. On le sait, la jeunesse en ce moment, elle n'est pas en forme, surtout depuis la crise. Hein, on l'a vu, les chiffres le disent, il y a une hausse des tentatives de suicide. Donc il y a aussi un acte militant derrière ce festival.
Ah ben je crois même qu'avant d'être un militant sida, moi je suis un militant jeune. Donc j'ai d'abord été un animateur et un éducateur auprès de jeunes. Et puis après, j'ai créé Solidarité Sida et je suis resté dans la lignée de ce que je défends. Et donc, moi, dans les choses qui m'importent, c'est que je pense que d'abord la jeunesse est beaucoup moins individualiste qu'on veut bien le croire. Je pense que plus on est, mieux c'est, et qu'ensemble, on est plus fort. Et donc j'essaie de développer des dynamiques collectives qui, en bout de parcours, sont profitables à tous. Donc il faut intégrer cette machine pour qu'on puisse générer du profit individuel et collectif. Quand je dis du profit individuel et collectif, c'est que je sais que globalement, plus on donne, plus on reçoit. Et quand on mesure ce qu'on reçoit, on est prêt à donner encore plus. Maintenant, il faut que ça soit bien managé, il faut que ça soit clairement valorisé, il faut que ça soit profitable et que ce profit soit vraiment partagé. Donc c'est vraiment une mécanique du cœur qui fonctionne bien et qui devrait peut-être inspirer ruisseler dans notre vie au quotidien. Parce qu'effectivement, aujourd'hui...
C'est contagieux, pour le coup, une bonne contagion. Oui,
quand vous avez 25 ans, mais quand vous avez 35, soyons clairs, dans votre quotidien, dans votre boulot, un bon management valorisé avec des perspectives, il n'y en a pas des masses, et dans notre vie quotidien, la capacité à se projeter dans un projet collectif, c'est de plus en plus rare. Et donc, l'associatif...
C'est ce qu'on recherche tous.
Ce dont on a le plus besoin. Mmh. Voilà.
C'est ça, quand vous dites que vous êtes des bisounours bienveillants et productifs. C'est ce que vous venez d'évoquer,
assumer pleinement que vouloir le bonheur d'autrui, c'est une belle mission et que c'est une belle récompense. Et c'est pour ça que moi, vous savez, souvent on me dit, mais quand même, Luc, ça fait longtemps que tu fais ça et tout. Parce qu'ils s'interrogent jusqu'à quand je vais faire ça. Et je leur explique que moi, je me sens privilégié et redevable de vivre ce que je vis. C'est-à-dire que partager des choses, transmettre, faire en sorte qu'elles soient profitables et qu'on y prenne du plaisir en le faisant. C'est quand même un beau programme.
Au sein d'A Solidays, donc on le disait, il y a des concerts, il y a des ateliers, il y a des conférences aussi.
Il y a des talks. Donc,
par exemple, il y a quoi ?
Tony Estanguet qui va venir parler un petit peu de la quête jusqu'à la réalité olympique, mais vous avez aussi, on va parler des enfants maltraités, on va parler des j'ai 20 ans et je bosse de la santé, donc il va y avoir des jeunes témoins de 25 ans qui travaillent, en gros il y a une jeune fille qui a 23 ans et qui bosse en oncologie pédiatrique, elle va venir nous expliquer pourquoi elle a fait ce choix, pourquoi aujourd'hui, comment elle est challengée dans son boulot, qu'est-ce qui fait qu'au CHU de Nantes, c'est pas si facile que ça, et malgré les aspirations ou ce qu'on projette, on peut être désillusionné assez rapidement, mais comment il faut se battre pour lutter contre ces constats du quotidien. On va parler bien évidemment de sexualité avec Maya Mazorette, mais avec d'autres. On va parler de parcours de l'exil avec deux réfugiés qui vont nous raconter ce que c'est que les camps.
À chaque fois, c'est des gens qui racontent leur histoire.
Ah oui, ce sont des témoignages. C'est une façon de mieux se projeter.
C'est plus d'émotions.
Ah bah oui, il y a des philosophes, il y a Worms qui vient, le patron de l'ENS. Donc voilà, on parle de plein de choses. On vient apprendre. Comme je vous l'ai dit, que ce soit dans le village Solidarité, que ce soit sur les scènes, que ce soit dans le social club où on fait des conférences, ou que ce soit dans les allées de Longchamp, on est là pour partager.
Mais là, on partage, on transmet. On n'a pas du tout parlé d'argent. Comment vous faites pour vivre de ce festival ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi le modèle économique ?
Solidaire, ça va coûter globalement 7 millions d'euros. Et donc, il nous faut trouver au moins 7 millions.
Donc les sponsors ?
Oui, les partenaires publics et autres. Et puis après, il faut générer des bénéfices parce que ce festival sert à générer des bénéfices qui servent à financer une partie de la structure et des programmes d'aide aux malades et de prévention dans le monde entier. Donc en gros, grâce à Solidaise, dans 21 pays, Solidarité Sida aide les plus démunis.
Chaque jour dans La France Bouge, Luc Barruet, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'un événement ou d'une association qui traverse les années. Aujourd'hui, le Podium Europe. Ah bah oui, c'est une émission consacrée au festival et donc on a eu envie de retourner un petit peu à cette époque dans les années 60 avec les tournées des concerts d'été dans toute la France diffusées dans l'émission Musicorama depuis les villes de province, les stations balnéaires et même les étapes du Tour de France. Ce podium, c'est un peu l'ancêtre des festivals que l'on a aujourd'hui et c'est la saga du jour racontée par Charles de Barrican.
Europe 1, la France bouge. La saga.
Ce générique, il est culte, c'est celui de l'émission Musicorama sur Europe 1. En 1957, soit 2 ans après la création de la radio, Louis Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1, a une idée, organiser des concerts d'été à travers la France. Le nom, le podium d'Europe 1, le tout début des festivals retransmis en direct à l'antenne. L'idée, rassembler sur différentes scènes les plus grands artistes musicaux du moment, offrir au public des heures de partage et de plaisir en musique, et ça, partout en France, comme on peut l'entendre dans cet archive de 1958, Guy Vial est sur le podium d'Europe 1.
Bonsoir Dijon.
Bonsoir.
Présenter un spectacle différent chaque soir dans une ville différente. Et ça représente un petit tour de force. Ce podium est installé devant le palais de la gastronomie.
Et au menu du podium de cette soirée en 1958, Olivier Janès.
Festival d'Aubervilliers, les rues sont lavées, essuyez vos pieds, emmenez vos dames, allongez, allongez.
Ou encore François de Gelt et Daniel Fort.
Même si tu n'y crois plus, il faudra que tu m'aimes.
Et ce podium Europe 1 n'aurait pas pu exister sans le soutien du fondateur de la radio, Louis Merlin.
Ce soir, je voudrais vous présenter des gens épatants que vous ne voyez jamais, et ce sera le privilège de Dijon de pouvoir, je l'espère, les applaudir et tout au moins de les voir. C'est toute l'équipe, vous avez entendu comme j'ai dit l'équipe ? Toute l'équipe, je ne ferai jamais un bon meneur de jeu. C'est toute l'équipe d'Europe numéro 1. Nous sommes partis 52 sur le tour. 52 enthousiasmés maintenant de voir des foules comme celle de ce soir nous montrer tant d'amitié et tant de gentillesse.
Le podium Europe 1, c'est aussi l'occasion de rencontrer les auditeurs et de jouer avec eux entre les concerts. On les fait monter sur scène, ils peuvent gagner des cadeaux ou encore résoudre des énigmes.
Un voleur a dévalisé une bijouterie. Elle est plus difficile celle-là. Il a mis son butin dans 2 petits sacs pesant chacun 500 grammes. Poursuivi. Il arrive près d'un petit pont branlant capable de supporter 70 kg 500 de charge sans s'écrouler, c'est très précis. Or, le voleur pèse 70 kg. Il est chargé de son butin, 2 sacs de 500 grammes, donc son poids dépasse de 500 grammes la charge que le pont est capable de supporter. Et cependant, il passe. Comment fait-il ?
Alors, monsieur, jongle avec.
Il jongle.
Et voilà. Oui, il jonglait avec ses sacs, c'était tout simple, mais il fallait le trouver. Eh bien, ces messieurs ont gagné les prix que l'inspecteur Piju va leur remettre.
Le podium Europe 1, c'est dans toutes les villes, l'été, dans les stations balnéaires et même en direct de la caravane du Tour de France, une tournée avec un point final parisien où le public est au rendez-vous, comme en 1963, au micro Europe 1 de Roger Ardouin.
Vous habitez là,
sur
le cours de Vincennes ?
Oui, sur le cours, oui.
Et vous êtes descendu pourquoi ?
Pas parce que ça m'empêche de dormir, c'est pour me rendre compte de ce qui se passe dans mon quartier.
Quel âge avez-vous ?
11 ans.
Ah bon, qui est-ce qui a décidé de venir ici à la fête ce soir ? C'est vous ou vos parents ?
Nous.
Et 20 ans plus tard, c'est Carlos qui enflamme le podium Europe 1, comme on peut l'entendre dans cet archive de 1982 à Reims.
Hey, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je rentrais de gala avec mes musiciens.
Les podiums Europe 1 continuent ponctuellement jusqu'en 2010, mais finissent par s'arrêter. Ils laissent place aujourd'hui aux nombreux festivals partout en France et dans le monde entier qui rassemblent chaque année des millions de festivaliers.
Et voilà, c'était donc les podiums Europe 1, cette saga du jour racontée par Charlotte Barrican. Nous sommes toujours avec vous, Luc Barruet. Vous êtes le fondateur de Solidays. Et oui, on a eu envie de parler des podiums Europe 1 parce que c'était à une époque où on se disait là hors antenne, hein, il y avait pas tous les mots que traversent nos jeunes aujourd'hui. Et d'ailleurs, Luc Barruet, au sein de Solidays, il y a plus de 3000 bénévoles, hein, on ne les connaît pas, on ne les voit pas forcément, qui sont là présents à Solidays, hein, pour les vendredis, samedis et dimanches prochains. Il y a un sujet qui est loin d'être anecdotique quand on est festivalier, ce sont les toilettes. Et vous ? Non mais c'est pas drôle en vrai.
Non, c'est pas, mais pas
parce
du tout.
Que, non mais quand on passe 3 jours comme ça, et vous Luc Barruet ?
3 jours et 2 nuits.
Et 2 nuits, c'est ça ? Vous avez trouvé des solutions.
Alors, on a trouvé des solutions.
Grâce à vos bénévoles.
Alors, juste sur les bénévoles, il y en a 3000. Ils sont répartis dans 67 équipes. Il y en a déjà qui sont déjà depuis 10 jours à Longchamp qui participent au montage, hein, soyons clairs, avec la canicule. Ils sont au milieu de l'hippodrome. Et donc, il y a 67 équipes qui sont réparties en fonction de l'accueil du public, l'animation du camping et autres. Et donc, il y a une équipe pour laquelle j'ai une grande sensibilité qui s'est baptisée les Harpic Monkeys. Et donc, c'est en gros, c'est une régie sanitaire. Et donc, leur mission, c'est de faire en sorte que les gens attendent le moins possible, que les toilettes soient le plus propres possible. Ils ne font pas le ménage, mais en tout cas, ils gèrent l'accompagnement. Et parce qu'ils sont tous convaincus, comme moi, que le meilleur service au festivalier qu'on puisse faire dans un festival, c'est les toilettes. Mais et encore plus pour les filles.
Évidemment. Les Harpic Monkeys chez Assolidays, on va le retenir. Luc Barruet, vous restez avec nous à suivre les trophées Europe 1 de l'avenir. Il est 13h42.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant aujourd'hui, attentif, bienveillant, c'est un expert. Et oui, aujourd'hui, c'est Luc Barruet. Vous êtes le fondateur de Solidays, hein, ce festival qui démarre vendredi prochain, vendredi, samedi et dimanche prochain à l'hippodrome de Longchamp. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on va vous proposer un projet d'entreprise, enfin d'application, hein, de start-up, pardon, lancé il y a 18 mois. Bonjour Joanne Dupuis.
Bonjour à vous.
Vous avez 34 ans, vous êtes le fondateur de Safer, ça s'écrit S-A-F-E-R. C'est une application d'alerte gratuite pour les personnes qui se trouvent en milieu festif grâce à un système de géolocalisation temporaire en cas de souci. Vous êtes basé à Marseille. L'idée a démarré lorsque vous étiez à un festival en Tunisie, il y a 3 ans. Pourquoi cette idée? À quoi ça sert et comment ça marche? Vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti!
Eh bien, Safer, c'est une boîte à outils, effectivement, qui vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Il repose sur 3 piliers. Le premier, une double application. Une application qui envoie les alertes en temps réel. Une autre application qui les reçoit et qui est destinée, elle, à des bénévoles. Ces bénévoles sont sensibilisés sur notre site internet. C'est le 2e pilier. Ce site internet permet donc de se sensibiliser quand on est un bénévole ou quand on est un gestionnaire de festival, de pouvoir gérer ses bénévoles. Et enfin, le 3e trépied, si je puis dire, c'est la Safe Zone, qui est un lieu de ressources et de prévention. Donc on peut s'en rapprocher quand on a un problème, on peut venir échanger avec là le professionnel sur place, ou tout simplement discuter avec les bénévoles. Voilà.
Ben voilà, ben moins d'une minute, hein, c'était très clair.
Moins d'une minute, ouais.
Merci Johan Dupuis, donc fondateur de Safer. Je me tourne vers vous, Nathalie Carré. Vous avez analysé le projet Safer. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce projet, selon vous?
Ben effectivement, l'alcool, la foule, le sexisme, voire l'homophobie. Autant de raisons qui font qu'à peu près 41% des Français déclarent se sentir parfois en insécurité dans un lieu festif. Donc le problème est réel. Et aujourd'hui, les seules solutions sont la fuite, dans 70% des cas, ou l'immobilisme. Donc votre solution apporte une alternative plus efficace. Et donc bravo pour le duo aussi physique et virtuel, puisqu'on a l'application, mais on a le stand. Et puis surtout, évidemment, l'ensemble des bénévoles qui peuvent intervenir. L'application est gratuite. Et alors j'ai testé, on peut même envoyer une alerte sur l'appli, même si on n'a pas créé de compte, ce qui est toujours une bonne chose. Alors quelques idées, le sujet c'est que vous abordez réel et en même temps, sans faire de polémique, l'insécurité est un ressenti personnel. 2 personnes différentes peuvent vivre un même événement de façon très différente. Du coup, comment un festival peut communiquer sur votre solution pour rassurer, en disant bah, chez nous on est conscient qu'il peut y avoir des soucis malgré tous nos efforts, donc on propose une solution complémentaire, sans inquiéter. Typiquement, je suis une maman de 48 ans, je n'ai pas vécu cette insécurité dans ma jeunesse. Si je vois cette solution sur le site internet du festival, je vais penser à ce problème alors que je n'aurais peut-être pas pensé avant. Et du coup, peut-être que je vais interdire à mes enfants d'y aller. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, mais en tout cas, elle mérite d'être travaillée avec les organisateurs des festivals, bien sûr. Votre solution démarre, vous êtes déjà présent sur plusieurs festivals. Je ne sais pas quel cap vous voulez donner à votre entreprise, mais je vous livre quelques idées dont vous ferez bien ce que vous voudrez. Quand vous intervenez, on est en mode curatif finalement, mais peut-être que vous pourriez aussi prendre l'agresseur en charge pour lui faire prendre conscience de son acte et de son impact, pour qu'il puisse peut-être s'interroger sur les raisons de son comportement et éviter que cela se reproduise. Vous passeriez alors en mode préventif. Et puis dans la prévention aussi, il y a peut-être les 3-4 règles clés pour gérer une personne trop pressante, insultante ou franchement agressive, avec les bonnes paroles qui calment le jeu. Vous pourriez diffuser via votre application. En effet, la meilleure des solutions est peut-être l'autodéfense. Alors, ça ne fonctionnera pas toujours, mais ça peut aussi calmer le jeu le temps qu'un bénévole arrive. Ensuite, votre application pourrait devenir un véritable observatoire documenté. Vous pourriez qualifier chaque intervention. Est-ce qu'il s'agit juste d'une insulte, d'un attouchement ou plus grave? Et voir leur évolution dans le temps. Vous apporteriez alors une réalité concrète au mot insécurité que tout le monde utilise pour définir des choses très, très différentes. L'idée étant qu'à terme, vous soyez présent dans les festivals, mais que finalement, plus personne n'ait besoin de vous, comme un peu le garant de la sérénité, une sorte de label ou du Safe Festival. Safer, ça serait le compagnon sérénité des festivals pour que plaisir et tranquillité soient une réalité pour toutes et tous.
Merci Nathalie Carré. Joanne Dupuis, quel est votre, comment réagissez-vous par rapport à tous ces conseils, ces suggestions surtout de Nathalie ?
C'est des choses qu'on a tout à fait en tête et pour tout vous dire, la plupart sont déjà des choses que l'on prépare.
Non mais elle a raison sur cette histoire d'insécurité, c'est-à-dire qu'on peut envoyer nos gamins en festival et nous on n'y pense pas. On dirait que vous pouvez mettre un problème qui peut-être n'existe pas pour tout le monde.
Je pense pas que ce soit la bonne réponse à apporter. Nous, nos bénévoles sont des bénévoles sensibilisés. Ils apportent une écoute et ils sont à disposition. Ils font des maraudes. Ils sont là au cas où.
D'accord.
Et c'est bien d'avoir des gens au cas
bien
où
sûr.
Bienveillants, non ?
Ah bah c'est formidable. On en a tous besoin. Ils sont combien vos bénévoles aujourd'hui ?
Ça dépend de chaque festival sur lequel on va. Vous voyez, on vient de finir Mars Attack, qui est le festival de l'association Oran, qui incube aussi ce projet Safer. Et on avait une vingtaine de bénévoles sur tout le festival.
Luc Barruyer, vous êtes le fondateur de Solidays. Quel regard portez-vous sur ce genre d'initiative, sur Safer ?
Je pense que il faut être créatif dans cette...
Toujours innover.
Dans ce domaine, pas que dans ce domaine, mais notamment dans ce domaine. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet, pas que dans les festivals.
Mais partout. Donc, c'est ce que dit Nathalie, l'insécurité, on peut la ressentir partout.
Et donc il faut l'anticiper, il faut occuper le terrain, parce que je pense que comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois un travail de pédagogie et de prévention, c'est aussi un travail de prise en charge à la fois des victimes, mais à la fois des auteurs. Il faut trouver le bon équilibre par rapport à ça. Maintenant, ce qui est clair, effectivement, et en tant que acteur de prévention, il faut bien trouver l'équilibre entre à quel moment je propose un service par rapport à des gens qui en ont besoin ou qui pourront en avoir besoin et à quel moment j'en parle plus qu'il ne faudrait pour pas que d'un seul coup on influe le comportement des autres, que ce soit en termes de sensibilité ou d'inquiétude. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber à la fois dans la psychose, parce que c'est le pire. C'est le pire. Maintenant, effectivement, la réduction des risques et l'intelligence du dispositif de terrain, c'est ça la réponse.
C'est ça la réponse. Et puis vous, avec les 3000 bénévoles, de toute façon, il y a toujours un œil, un regard qui est partout. Enfin, on n'est pas là seul et livré à nous-mêmes. Merci à vous, Joanne Dupuis. Vous êtes le fondateur de Safer. Merci d'être venu dans La France Bouge. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, d'appli, de start-up, il n'y a qu'une seule adresse pour venir pitcher, Nathalie Carré.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Il est 13h52 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge, dernière partie de votre émission. Une France bouge consacrée à nos festivals. Et oui, ça repart, les festivals, après deux années blanches, c'est reparti. Et Solidays affiche des enregistrements, des réservations, records pour cette année. Le Solidays qui démarre vendredi prochain, vendredi, samedi et dimanche prochain avec une programmation exceptionnelle. Et on en a parlé avec vous, Luc Barruyer, fondateur de Solidays. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous, à la France bouge, on adore les parcours de vie professionnelle. On adore découvrir celles et ceux qui osent, qui ont l'audace de changer de vie. Comme vous, Cyril Madard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 30...
Elisabeth, comment allez-vous ? Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ça va très
vous
bien.
Avez 30 ans, vous êtes à la base, vous êtes chirurgien-dentiste et aujourd'hui vous êtes producteur. Que s'est-il passé ?
Alors c'est très simple. Quand on a 17 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et j'ai suivi le cadre et le modèle familial. J'avais tous mes oncles dentistes, j'avais une dizaine de cousins dentistes et j'ai dit bon, je vais faire comme eux. Et au bout de quelques années de pratique, j'ai dit oh là là, ça c'est pas un métier pour moi. Et un beau jour, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui s'appelle Nazim Khaled et c'est un très très grand compositeur. Il a écrit par exemple pour Claudio Capeo, pour Kenji, il a fait Andalouse, Les yeux de la mama, donc il a pas mal de hits à son actif. Et c'est là où j'ai dit ça me plaît plus et je vais travailler dans la musique.
Je veux faire le même métier que lui, vous vous êtes dit.
Je voulais plus. En fait, je voyais qu'administrativement, et il gérait pas. Il était vraiment artiste, focus artiste. Et je me suis dit, mais combien il doit y avoir d'artistes qui sont mal accompagnés, mal gérés. Et j'ai dit, pourquoi pas mettre la rigueur que j'avais appris à la fac.
En dentisterie, ouais.
Exactement, et quand j'avais créé mon cabinet, etc. Et donc j'ai mis toute cette énergie-là dans son projet. Et je lui ai dit, tu sais Nazim, là tu as 30 ans, c'est maintenant si tu veux passer devant la scène. Et il a toujours eu, je pense, cette envie de le faire. Et j'ai dit, pourquoi pas, faisons-le ensemble. Donc on coproduit lui et moi son projet. Et il continue d'ailleurs, il a eu encore la chanson de l'année 2022, il a remporté la chanson de l'année 2022 avec Rétine pour Amir.
Donc lui,
donc il continue sa partie de composition.
Et vous êtes derrière pour les contrats en gros, c'est ça?
C'est exactement ça.
Mais quand on a fait, c'est combien d'années d'études dentistes?
6 ans.
Bon, quand on a fait 6 ans d'études, on a passé une première année de médecine qui est franchement compliquée. Comment on bascule comme ça, on se dit moi j'arrête tout ça et je vais produire des artistes. Et c'est quoi l'étincelle? C'est pas juste une rencontre?
En fait, c'est très simple. C'est très simple. D'où c'est venu la volonté d'arrêter? C'est que quand on est chirurgien dentiste, on fait un métier où on a beaucoup de gens qui se plaignent. Personne n'est content d'aller chez le dentiste.
Ah bah c'est sûr.
Okay.
Et donc à la fin de la journée, on récupère les mauvaises énergies
de
tout le monde.
Alors que là,
j'ai perdu 6 ans, je ne vais pas perdre 45 ans de plus à faire ce métier. Donc je préfère sacrifier 6 ans et refaire quelque chose que j'aime. Et quand on travaille dans la musique, c'est que des bonnes ondes. C'est que un bon mood, c'est que un bon mojo. C'est vraiment... C'est incroyable comparé à... je suis passé du tout au tout, en fait.
Donc aujourd'hui, vous êtes très épanoui, Cyril, et vous n'avez aucun regret.
Luc, je pense que Cyril est épanoui, mais gagne moins d'argent.
Ah oui, mais vous avez gagné moins d'argent, forcément.
Pas sûr. La SACEM paye très bien.
La SACEM qui sera notre invitée, la patronne sera notre invitée exceptionnelle mardi prochain pour la fête de la musique.
C'est une niche exceptionnelle dont personne ne s'occupe, mais ça, la SACEM
N'en parle pas trop.
Bon, écoutez, en tout cas, Cyril, merci, vous avez osé. Vous êtes passé de dentiste à producteur d'artiste. Mais j'adore, oui, c'est ça, la France bouge. Luc Barruet, c'est déjà la fin de votre émission. Vous étiez à l'honneur aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Solid Days. À partir de 24 juin, on vous retrouve, c'est ça? Jusqu'au 26.
Talonchamp, jusqu'au 26, tout à fait.
Pour une année exceptionnelle, après 2 ans d'année blanche.
C'est ça, et comme je disais tout à l'heure... C'est un pèlerinage et on attend d'aller repartager avec sa communauté.
Merci à vous Luc Barruet. Nathalie Carré, on se retrouve lundi avec la patronne de Maybelline New York. Ben oui, on va recevoir l'une des plus grosses marques au monde de maquillage parce qu'il paraît que les ventes explosent. Ben oui, après 2 années, on n'a rien fait derrière les masques. Et ben aujourd'hui, on se maquille. Allez, à lundi dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.